Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 14 à 16. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16. L'apôtre Paul nous dit ceci: faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Amen. L'apôtre Paul parle de cette nécessité pour nous de briller. Un jour, frères et sœurs, nous vivrons éclairés par la lumière de l'agneau, entourés, transformés par la gloire du Père dans cette cité céleste qu'il a préparée pour nous. Quel bonheur pour nous de savoir qu'un jour, on sera devant le Seigneur. Qui est heureux de cela? Amen. C'est un bonheur. Mais en même temps, il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans des temps un peu compliqués. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas vivre et de ne pas rester dans l'obscurité. Et il est question pour nous finalement de vivre dans la lumière et de briller comme des flambeaux. Ce n'est pas évident. Hein ? Parce que quand vous allumez un flambeau dans la nuit, on le repère de tous les côtés. Et finalement, on devient la cible. Finalement, on devient quelqu'un qui dérange. Pourquoi ? Parce qu'il chasse les ténèbres et il éclaire dans la nuit. Et bien évidemment, c'est ce que Dieu a fait dès le départ. Si vous prenez dans le livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 16 à 18, il dit la parole de Dieu: « Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit ainsi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. » La parole de Dieu nous parle de séparation de la lumière et des ténèbres. Il suffit d'une petite lumière pour briser les ténèbres. Plus la lumière elle est forte, certes, plus les ténèbres sont obligées de reculer. Mais si ce n'était qu'une petite lumière, elle prend le dessus sur les ténèbres. Et nous, parfois, on n'estime pas important le rôle que Dieu nous a donné. En tous les cas, on ne se sent pas à la hauteur de ce que Dieu nous a demandé. Et on se dit: Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Mais mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager ce matin à briller. Et vous savez, les grands incendies, souvent, ça commence par un étincelle. Non ? Il ne faut pas grand-chose. Hein ? Un étincelle qui, finalement, embrase. Et je pense qu'on sait de quoi on parle dans la région. Il y a des fois où ces feux embrasent les montagnes tout entières et c'est des distances énormes. Parfois, l'homme est incapable, en tous les cas, il a besoin de temps pour trouver une solution pour éteindre ces feux. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que par Jésus, nous avons accès à toute une autre lumière. Jean chapitre 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla et de nouveau, il dit: « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Béni soit Dieu. Certes, il y a le soleil, certes, il y a la lune, mais parfois les deux sont absents, ils sont couverts. Mais la lumière de Christ, rien ne peut la couvrir. Mais il est question pour nous de le suivre. Si vous regardez, il dit « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Alors, est-ce que nous sommes en train de suivre Jésus ? À quelle distance ? Parce que certains suivaient Jésus de loin. Ou est-ce qu'on est prêt à s'approcher davantage de cette lumière qui est Jésus-Christ ? Alors, plus on s'approche de lui, plus on voit les ondes d'ombre que nous avons, nous, dans notre vie, dans notre cœur. Quand on voit Jésus, comment il agit, forcément, ça nous remet en question. Quand on voit comment Jésus agit envers ceux qui sont en train de le juger, est-ce que nous, on aurait agi comme lui? Il dit la parole, il ne dit aucun mot. Nous, peut-être, on aurait essayé de se défendre. On aurait fait appel aux médias pour dire « il y a injustice ». Aujourd'hui, parfois, certaines choses se règlent plutôt dans les médias que dans les tribunaux, malheureusement. Mais ça, ce n'est pas notre sujet et ce n'est même pas notre raison d'être. Mais ne pensons pas que le fait de parler de certaines choses nous donnera des raisons devant le Seigneur. Ne croyons pas que parce qu'on se plaint de certaines choses, forcément Dieu sera obligé de se plier à nos arguments. Parce que ça serait une grave erreur. La parole de Dieu dit « celui qui me suit », qui suit Jésus. Ce n'est pas celui qui précède Jésus, ce n'est pas celui qui pense qu'il déjà il est arrivé au point de dire « Seigneur, vas-y, allez, suis-moi, je te montre ». Non, non, « qui me suit ». Et il est question pour nous de le suivre pas à pas. Il dit « il ne marchera point dans les ténèbres ». Mon frère, ma sœur, si tu marches avec le Seigneur et qu'à un moment tu sens les ténèbres t'entourer, c'est que peut-être tu as dévié. Peut-être tu as laissé finalement ton chemin s'écarter de celui que tu dois suivre. Jésus nous adresse une invitation à le suivre, à marcher dans les empreintes de ses pas avec une promesse magnifique. Mais il faut mettre nos pieds là où Jésus a mis son pied. Pas évident de marcher sur les empreintes du Seigneur. Le terrain que Jésus a parcouru n'était pas toujours facile. Et non seulement nous ne marcherons pas dans les ténèbres, mais nous serons remplis de la lumière de sa vie. Quel bonheur! Vous savez que la lumière est la vie. Si vous prenez une plante et vous l'installez sans lumière, elle aura vraiment du mal à grandir. Peut-être vous avez fait cette expérience quand vous étiez à l'école, hein, une boîte en carton, où vous mettez des obstacles, et tout au fond, vous mettez juste une semence, bien entourée dans un coton bien humide, et au bout de la boîte, de l'autre côté, un petit trou. Et finalement, vous avez laissé le temps faire les choses. Et la petite plante, elle a commencé à pousser, et elle a parcouru tous les obstacles pour finalement pouvoir sortir et bénéficier de la lumière. Peut-être que votre marche pour vous approcher du Seigneur n'a pas été facile. Il y a eu plein d'obstacles. Et peut-être qu'il y en a encore. Mais nous ne pouvons pas grandir tant que nous ne sommes pas dans la lumière de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas finalement prendre des couleurs. On a besoin de cette lumière. On a besoin du rayonnement de la chaleur de Jésus-Christ dans notre cœur. On a besoin d'être et de vivre constamment dans sa présence pour que les ténèbres elles ne puissent plus finalement nous empêcher de grandir. Lorsque nous venons au Seigneur, nous faisons des pas de géant. Hein? Les premières, je dirais, les premiers temps de conversion, on a le sentiment que, excusez-moi, beaucoup de choses sont faciles. On demande, le Seigneur donne. Et je me rappelle que, un temps, j'avais demandé à quelqu'un, j'ai dit, mais écoute, c'est super, hein, je prie, je demande au Seigneur, Dieu donne. Et il m'a dit, oui, mais prépare-toi aux périodes où tu vas devoir prier deux fois plus. Ah bon, pourquoi? Parce que Dieu veut que tu t'enracines. Si tout était donné sur un plateau comme ça, finalement, tes racines, elles ne seraient pas profondes. Tu vivras des temps de sécheresse où finalement tes racines, elles devront pousser encore plus bas pour aller chercher l'eau que Dieu a prévue pour toi. Mais si Dieu te place dans cette situation, c'est qu'il sait que tu peux et tu dois grandir. Sommes-nous prêts à grandir? Mais on aime bien l'arrosage. Hein, on aime bien être arrosé de la part du Seigneur à chaque réunion. Seigneur, tu m'as arrosé, je suis reparti vivifié, je suis parti encouragé. Et peut-être la personne qui est à côté de nous dit, oh là là, il a pris toute l'eau lui. Moi, j'ai rien eu. Mais certainement le Seigneur, mon frère, ma sœur, voudrait te faire grandir, pousser tes racines en profondeur. Un jour, quelqu'un m'a dit que quand on plante un rosier, si on l'arrose de trop, il s'habitue. Et la première fois où vous oubliez de l'arroser, finalement, la chaleur a raison de lui. Mais si vous l'arrosez avec une certaine distance, avec une certaine, vous l'obligez finalement à pousser ses racines. Et même si un jour vous oubliez de l'arroser, lui, il aura trouvé sa source. Ô combien est important pour nous, frères et sœurs, finalement, d'aller enraciner notre foi, notre cœur, notre vie en Jésus-Christ. Non pas une vie de surface, non pas une vie finalement d'apparence, mais quelque chose qui va en profondeur. Et il nous appelle à être finalement des flambeaux dans le monde. Nous avons parfois l'impression de marcher sur un chemin ombragé par des problèmes de santé, de finances, d'addiction ou de péchés récurrents. Et pourtant, Jésus nous adresse cet appel. Suis-moi. Non ? C'est la seule manière pour nous de nous démarquer de notre génération en étant, il dit la parole de Dieu, irréprochable et pur. Pour faire face à une attitude qui s'oppose, c'est quoi ? La corruption et la perversité. Il nous appelle à briller comme des flambeaux en opposition aux ténèbres et à tout ce qui est caché, portant la parole de vie en opposition à la parole qui plonge dans le mensonge, la mort spirituelle, car contraire à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a une telle volonté de lisser les choses. On est tous égaux. Aux yeux du monde, oui. Aux yeux de Dieu, ou t'es sauvé, ou t'es perdu. Et tu ne pourras pas acquérir cette position de sauvé en disant « je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé ». Savez-vous nager ? Non, Hélène. Il va falloir qu'on travaille ce point-là. Hein. Autrement, comment vous faites à chanter « Plonge-moi dans ta rivière d'amour » ? Imaginez que finalement, oui, ben ça c'est les subterfuges humains. Il y a des moments où, frères et sœurs, ce n'est pas les subterfuges humains, ce n'est pas ce que nous voulons nous dire ou nous convaincre qui va faire de nous quelqu'un qui est sauvé. Souvenez-vous de ce texte, de ceux qui viennent frapper. En ton nom, nous avons fait, nous avons dit, nous avons agi. Et la réponse de l'autre côté, c'est « je ne vous connais pas ». Comment pouvons-nous être connus par le Seigneur si ce n'est en brillant de sa lumière ? Ah, parce que certains se sentent une lumière. Hein. Heureusement, je suis là, je suis une lumière. Bon, vu les augmentations des prix de l'électricité, on verra la note finale, n'est-ce pas ? Mais la question pour nous, c'est de dire, est-ce que je brille de la lumière de Christ dans ma vie ? Est-ce que finalement, j'ai accepté dans le monde de briller de Jésus-Christ, de porter haut et fort les valeurs de Jésus-Christ. Non pas les miens, non pas ma pensée. Ma pensée ne sert à rien. On pourrait exprimer ce matin beaucoup d'opinions sur bien des points, mais ça ne changera rien à votre vie et ça n'apportera rien de plus à votre salut. Le seul qui finalement a tous les moyens de changer le cours de notre vie, c'est Jésus. C'est sa parole. Ne restons pas perdus et ne restons pas dans la honte si malheureusement nous sommes tombés ou nous nous sommes trompés d'intersection. Regardez ce texte du psaume 25 à partir du verset 8 qui dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. » Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Amen. Mais à deux reprises, il y a ce mot le humble. Ce n'est pas en restant droit comme un i ou droit dans nos bottes, c'est en nous mettant à genoux devant le Seigneur, en reconnaissant nos fautes. Parce que c'est seulement à cette condition que l'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. On a pu peut-être à un moment se tromper. Mais le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Amen. » Béni soit le Seigneur. Et je dirais même au cœur des difficultés, Jésus te dit, « Suis-moi. » Même dans tes problèmes de santé, Jésus te dit, « Suis-moi. » Dans tes défis, Jésus te dit, « Suis-moi. » Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il fallait être complètement en ordre pour pouvoir s'approcher de Dieu. Je lui ai dit, le jour où tu considères que tu es tout en ordre, tes pécherés sont encore pires. Il dit, pourquoi ? Parce que finalement, tu as l'orgueil de penser que toute seule, tu n'as pas besoin de Jésus pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de Jésus pour être guéri. Tu n'as pas besoin de Jésus pour être relevé. Or, venir à Christ, certes, c'est pour nous une question de s'humilier, de dire, Seigneur, j'ai loupé. On n'aime pas le dire. Hein. C'est dur. Hein. Seigneur, je me suis... Ça ne sort pas. On n'aime pas dire qu'on s'est trompé. Dans le monde, ce mot ne devrait pas exister. On nous dit d'assumer nos responsabilités. Mais assumer nos responsabilités, c'est assumer aussi nos défaites, nos erreurs, nos échecs. Et on en a. Même si on n'aime pas les mettre sur notre CV. Hein. Je suis sûr que ce matin, si j'avais la possibilité de lire votre CV, il n'y aurait pas vos échecs sur le CV. Est-ce que quelqu'un a mis ses échecs sur le CV ? Sur le CV, on met tout ce qui est bon. Parfois même des choses qui ne devraient pas y être, mais ça fait qu'on est bon. Hein, on est tellement bon que qui sait pourquoi ils ne nous ont pas encore choisis. Hein ? Mais là, ils vont pouvoir se rattraper. Sauf que le Seigneur connaît la réalité de notre cœur. La discussion que Jésus aura avec la Samaritaine en est un cas, par exemple. Cette femme qui n'avait jamais rencontré Jésus avant, il lui dit, comment toi, juif, demande à moi une Samaritaine à boire ? Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande à boire, toi-même tu lui demanderais. Waouh, bam, 1-0. Et après, le Seigneur lui montre comment il va finalement la mettre en forfait. Va appeler ton mari. J'ai pas de mari. J'en ai eu 5 et celui que j'ai n'est pas le mien. Location, prêt. Ben oui. C'était le mari de quelqu'un d'autre, non ? Mais en réalité, ce n'était pas le sien. Et heureusement, là, elle a été vraie. Et Jésus lui dit, tu as bien dit. Et finalement, le Seigneur lui révèle le fond du problème. Mais Jésus savait aussi que cette femme, finalement, dans son cœur, elle espérait le véritable amour. Mais ce n'était pas l'amour qu'elle avait rencontré, c'était une séduction. Son cœur brûlé, mais dans la mauvaise direction. Parce que vous savez, quand notre cœur est appelé à brûler pour le Seigneur, il y en a un qui vient avec l'extincteur. Non ? Alors j'ai fait un tour dans notre bâtiment, on a 3 types d'extincteurs. 3 types d'extincteurs. Il y en a en poudre. C'est pour tout ce qui est circuit électrique. C'est confirmé ? Il y a celui où il y a de l'eau et un produit additif. Et après, il y a celui qui, en effet, la neige carbonique. En effet, qui étouffe. C'est fait exprès pour enlever l'oxygène. Alors, je me suis dit, bien des fois, nous, on est là, embrasés avec notre foi, et l'ennemi vient, un coup d'extincteur pour nous enlever l'air. Pour nous enlever l'oxygène, pour t'enlever l'envie de louer le Seigneur, de glorifier Dieu, il essaie de t'étouffer. Pourtant, t'étouffes, tout flamme, mais l'ennemi vient et... Il dit, mais où ça arrive? J'ai perdu mon zèle pour louer le Seigneur. T'as pris un coup d'extincteur. Donc le deuxième, on a dit que c'était avec de l'eau et de l'additif. Mais Seigneur, mais pourquoi j'ai autant de vagues de problèmes? Hein? On a l'impression que toutes les vannes sont vertes, les problèmes viennent de tous les côtés, on se prend des rats de marée. Ah! Seigneur, pourquoi? Moi, pourtant, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te servir. Et l'ennemi, il essaie d'éteindre le feu qui anime ton cœur, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que tu as besoin de t'approcher du Seigneur pour que ton feu ne soit pas éteint par les tentatives de l'ennemi. Et le troisième, on a dit, c'est la poudre. Hein? J'ai bien retenu. Et combien de fois l'ennemi essaiera d'éteindre ton témoignage en jetant de la poudre sur ta vie, en essayant finalement de te faire paraître autrement que celui que tu dois être. Et le texte, il nous le dit finalement, il nous dit d'être irréprochable et pur, de briller comme des flambeaux. Pas seulement de brûler, mais de briller. Nous, parfois, on brûle. Il y a le feu. On brûle, on est embrasé, mais pas forcément, on n'est pas forcément en train de briller. Il y a une différence. Il est question pas d'un feu qui se consomme très vite, mais de quelque chose qui brille malgré le temps qui passe et le temps qui nous reste à attendre pour que le Seigneur revienne. Amen. Parce qu'il est important que nos flambeaux soient allumés jusqu'au bout. Quand le flambeau est éteint, tout ce qui est autour, tout ce qui peut attaquer, en effet, les animaux, ils se sentent encouragés quand il n'y a plus de feu. N'est-ce pas, les loups ravisseurs? Mais la parole de Dieu nous dit d'être des flambeaux qui brûlent et qui apportent quelque chose. Ne restons pas, frères et sœurs, ni dans la honte et ne laissons pas l'ennemi nous convaincre de ce qui n'est pas bon. La parole de Dieu nous invite à nous approcher du Seigneur. Peut-être tu as pris un coup d'extincteur cette semaine. Mais ne reste pas comme ça. Le Seigneur peut remettre à niveau ta vie. Ah oui, mais c'est trop facile. Mais pourquoi tu veux faire compliqué? Ce n'est pas déjà assez compliqué? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi? Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance du libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus-Christ, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivons au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Si tu as pris un coup d'extincteur, le Seigneur va te laver. Et il va te remettre en bon état. Il ne va pas laisser l'ennemi continuer à corroder et empêcher ta vie de brûler et de briller pour Jésus-Christ. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que ta vie est éteinte et tu n'as plus rien à faire. Regarde, les autres avancent et toi, tu n'avanceras pas. Combien vivent une forme de frustration spirituelle? Combien se disent les autres avancent et moi, le Seigneur, il m'a oublié. Combien encore peut-être ce matin se disent le Seigneur fait ça pour les uns et les autres, ils ont des choses à raconter, moi je n'ai rien à raconter. Peut-être que tu as laissé l'ennemi t'arroser de trop avec son extincteur. Mais ce matin, pas seulement le Seigneur est là pour nous remettre en état, mais il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est que lorsque j'ai pris des coups d'extincteur, j'ai trouvé dans l'amour fraternel et la communion fraternelle la communication du feu. Moi, combien de fois je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Parce que servir Dieu, ce n'est pas facile. Hein, on en prend des coups d'extincteur. Parfois, on se tourne. Ça passe à côté, mais parfois l'ennemi essaye de nous éteindre. Et le simple fait de se retrouver ensemble, de louer le Seigneur, de prier ensemble, c'est reparti. Nous avons besoin les uns des autres pour entretenir le feu de l'Esprit dans notre vie. Ne croyons pas que tout seul on va pouvoir y arriver et qu'on n'a pas besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres et on a tous besoin du Seigneur. Car le Seigneur nous dit encore, « Je suis le chemin, suis-moi. Viens avec moi, avance. » La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'il est question pour nous pas seulement de briller, mais de porter la parole de vie. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé, une question qui s'est imposée à moi. Je me suis dit, si l'on ne porte pas la parole de vie, qu'est-ce qu'on risque de porter ? À votre avis ? Est-il possible qu'un chrétien porte la parole de mort ? Ça vaudrait mieux pour nous, des fois, de mettre un loquet. Hein ? Tu sais, tu n'y arriveras pas. Tu vois, le Seigneur va. Moi, je les appelle les coupeurs d'oreilles. La parole de vie. Cette parole, finalement, qui redonne de la joie. Vous imaginez si vous connaissez cette histoire que Jésus partagera d'un homme qui descendait de Jérusalem et qui a rencontré des voleurs, hein, et qui, finalement, ils l'ont tabassé et laissé pour mort. Et là, vous avez un premier qui passe, c'est quelqu'un qui est occupé dans les fonctions et il n'a pas le temps. Il est tellement occupé dans ses fonctions. Et je me dis parfois, même dans l'église, on peut être occupé dans nos fonctions et passer à côté de quelqu'un qui souffre et même pas le regarder. Du coup, on s'occupe du service plus que celui qu'on sert. Après, il y a un sacrificateur qui passe et lui aussi, il n'a pas le temps. Il est attendu. Que Dieu nous garde. Lorsqu'on est dans le ministère, d'oublier à qui Dieu nous a donné. Le ministère est donné pour l'Église et pas pour le reste. Ce n'est pas l'Église qui est donnée pour le ministère, mais c'est le ministère qui est donné à l'Église. Servir le Seigneur, être un ministre du culte, ça veut dire être serviteur, esclave de Jésus-Christ. Et là, malheureusement, cet homme, il continue son chemin. Et après, là, il y a un troisième. C'est qui ? Samaritain. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Qui a la parole de vie ? Celui qui est occupé dans les fonctions ? Celui qui est, entre guillemets, occupé dans son ministère personnel ? Ou celui qui voit le besoin et y répond ? Je suis convaincu que si vous demandez au Seigneur d'être un porteur du feu et de la parole de Dieu, Dieu va vous conduire vers des personnes qui ont besoin du feu et de la parole de Dieu. Et vous serez comme ce pauvre homme qui va renoncer à sa monture pour amener finalement cet homme dans un hôtel. Et il va le soigner, et il va payer, il va dire, si jamais il y a des frais encore supplémentaires, tu me dis, je règle la note. Est-ce qu'on est prêt à payer pour le salut des autres ? Il y a une mouche. On attend qu'il y ait le salut des âmes et parfois même le salut de nos familles, que ça vienne de l'extérieur. Et si le Seigneur voulait que nous soyons un peu comme cet homme qui n'a pas regardé ni à la couleur de la peau, ni à la couleur de l'homme dans l'état où il était, il lui a apporté une parole de vie. Et la parole de Dieu qui le soigna, comment ? Avec de l'huile, du vin ? Le vin, c'est symbole de quoi ? De la joie, non ? Et l'huile, c'est l'onction, c'est l'esprit. Et il a pu le remettre debout. Il a pu finalement redonner de la vie à cet homme et lui permettre de reprendre le bon chemin. Il avait quitté Jérusalem pour descendre vers Jéricho. Si vous regardez, en effet, il y a un dénivelé au niveau du niveau de la mer, incroyable. Et parfois, il y a même des chrétiens qui quittent le lieu des hauteurs spirituelles pour redescendre dans des choses du passé, Jéricho. Ils reviennent un peu à la vie d'avant. Et ils pensent que parce qu'ils sont chrétiens, l'ennemi ne les touchera pas. Souvenez-vous, il a toujours des extincteurs en réserve. Alors la parole de Dieu nous dit ceci, et j'aimerais attirer votre attention sur ce texte d'Ésaïe. Hier, en le préparant, je me suis dit, Seigneur, garde-nous, parce qu'aujourd'hui, la foi, elle peut être vécue avec des nuances de gris. Il dit, Ésaïe, chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Parfois, on inverse les choses à la base de ce qui nous convient. Pourtant, pour Dieu, ce qui est saint est saint, ce qui n'est pas saint, ben, ce n'est pas saint. Et nous mêlons, c'est saint quand même, c'est pas grave, Seigneur. Allez, tu peux faire une petite entorse. Combien de fois dans certaines discussions, j'ai vu la manière où on peut tordre le sens du texte et vouloir faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. On se sert d'un texte pour en faire un prétexte et on dit, mais regarde comment ça s'est passé pour cette personne. Alors j'ai dit, très bien, mais on va regarder jusqu'au bout comment ça s'est passé pour cette personne. Parce que parfois, dans l'immédiat, la personne, elle croit avoir gagné tout, mais au bout de la course, elle a tout perdu. Lot. Hein ? Il voit la plaine et il ressemblait à la plaine d'Égypte. Il y a de l'eau en abondance. Tout est bon là. Il dit là, on n'a même pas beaucoup de route à faire, on est arrivé, on s'installe et tout va bien. Il pensait avoir tout gagné, mais à la fin, il a tout perdu, même sa femme. Et ses filles, malheureusement, partiront dans des travers. La parole de Dieu, finalement, elle nous encourage, frères et sœurs, à ne pas faire de vouloir faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Et elle nous demande aussi de garder bien la différence entre ce que Dieu considère bon et ce qu'il considère pas bon. Mais alors, quel est le message que nous devons communiquer, porter ? Et je mets un point sur le fait de porter. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7, qui dira ceci, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. C'est pas la méthode Coé, hein. C'est où tu marches dans la lumière ou malheureusement tu es dans les ténèbres. Et il est question finalement de considérer ce qui est véritablement nécessaire pour ta vie. Et il dit de porter. Il est question pour nous de porter ce message. Le porter en nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre manière d'être. Si nous devons briller, nous devons briller de quelque chose qui finalement il nous embrase de l'intérieur. Autrement, c'est une façade, c'est un aspect religieux, mais qui n'aura pas de sens puisqu'elle ne peut embraser personne. Un jour, je voyais quelqu'un qui avait des bougies et à l'image, à de loin, ça semblait des vraies bougies. Mais en effet, c'est juste des lampes qui jouent, ça fait un effet. De loin, c'est une bougie. Mais quand vous vous approchez, ça ne brûle pas. Et parfois, de loin, on peut donner une image où on est des nés de nouveau, en Christ et tout, mais quand on s'approche un peu, on dit « Oh là là, c'est le pôle Nord. » Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lumière. Et pourtant, nous avons besoin de sa lumière parce que sa lumière guérit nos yeux. Psaume 36, verset 10, c'est auprès de toi et la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Si tu veux voir la différence dans ta vie, tu as besoin de t'approcher du Seigneur. Elle nous conduit sur le chemin de la vie. Il dira le Proverbe chapitre 6, 23, car le commandement est une lampe l'enseignement une lumière et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Laissons le Seigneur nous reprendre. S'il le fait, c'est que, vous savez, il y a des choses dans notre vie qui ont besoin d'être reprises. Il y a des choses qui ont besoin d'être revues. Vous connaissez le psaume 119, 105, par cœur. C'est le verset d'après, allez. Vas-y. Ah, vous le connaissez, hein? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, je voudrais terminer juste avec ce texte d'Apocalypse 22, puisqu'on a dit à le départ qu'il y aura un jour, on sera devant le Seigneur. Et finalement, excusez-moi de dire ça, il n'y aura plus de faux-semblants. Peut-être qu'un jour, on sera étonné. On trouvera des personnes qu'on ne pensait pas trouver. Et on en cherchera certains qu'on pensait trouver. Ça, je le dis, mais avec beaucoup de souffrance dans mon cœur. Parce que je me dis, Seigneur, aide-nous finalement à que personne ne se perde. Vous savez, si Dieu use de patience, c'est pour que personne ne se perde. On lit ce dernier verset. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Celui qui est lumière est aux portes. Celui qui nous appelle à son admirable lumière est proche. Mais sommes-nous prêts, finalement, à nous retrouver à son service? Il dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Pour voir la face de Dieu, frères et sœurs, finalement, il n'y a rien qui doit nous faire rougir. Prenez un enfant quand il fait une bêtise, vous l'appelez. Généralement, il a du mal à croiser votre regard. À moins qu'il n'ait pas un petit têtu d'origine calabraise. Mais, et même là, quand vous lui posez la question, il est obligé de baisser le regard. Et Seigneur sait ce qu'il doit nous demander. Mais moi, je me dis, Seigneur, quelle grâce pour nous encore ce matin de dire, Seigneur, lorsque je prie et que je demande à que ton feu m'embrase, Seigneur, tu vas brûler tout ce qui est impur dans ma vie. Et si ce matin on demandait au Seigneur de faire de nous un feu dévorant, et si on demandait au Seigneur de faire de nous des flammes de feu, est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, consomme ce qui ne va pas dans ma vie? Seigneur, brûle ce qui est impur dans ma vie, ce qui ne te convient pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a chéries trop longtemps et que finalement, elles ne servent à rien. C'est un peu comme quelque chose qui nous retient, qui nous empêche de nous envoler avec le Seigneur. Hein? Du poids en surplus. Quelqu'un m'a dit ce matin qu'il fait du sport pour la ligne. Et je me dis, Seigneur, fais-nous retrouver la ligne spirituelle. Amen. Le physique, ça viendra, ne vous inquiétez pas. On sera tous beaux dans le ciel. On l'est déjà. On sera encore plus beau et parfait. Peut-être qu'on n'a pas été si parfait sur terre. Peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie, en ce moment, elle est en train de vous donner un coup de coude en disant, tu vois, c'est pour ça que tu n'es pas parti, tu n'es pas parfait. On peut se rendre le compliment l'un à l'autre. Et le jour où on sera dans le ciel, on sera parfait. Mais ici-bas, nous sommes appelés à être comme des flambeaux. Et on ne peut pas attendre de dire, Seigneur, quand je serai devant toi, je serai tout flamme, tout feu. Ou tout feu, tout flamme. C'est maintenant. Alors je vous invite tout simplement à incliner vos têtes. Et je demande vraiment à chacun de respecter ce moment où chacun d'entre nous, nous pouvons encore aujourd'hui dire, Seigneur, viens embraser ma vie. Seigneur, fais de moi ce flambeau qui et communicateur d'une parole de vie. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui brille de ta lumière. Aide-moi à faire la différence dans mon foyer, à faire la différence dans mon quartier, à faire la différence là où je travaille. Seigneur, permets que je puisse aussi être, Seigneur, quelqu'un qui porte ce feu et qui le communique à ceux qui ont besoin de te rencontrer. Seigneur, encore ce matin, s'il y en a qui ont malheureusement pris une mauvaise direction, tu es, Seigneur, compatissant et patient pour les ramener sur le droit chemin. Le roi David, Seigneur, te priera en disant « Sonde de moi, Dieu, et connais mon cœur. Et si je suis sur un mauvais chemin, ramène-moi. » Seigneur, nous voulons faire notre cette prière ce matin et te dire « Seigneur, ramène-nous sur le bon chemin. » Seigneur, je te prie pour ceux qui se sont laissés trop éteindre dans leur vie spirituelle par l'ennemi, par ses moyens, en touchant à leur témoignage, en touchant à leur intégrité, en touchant, Seigneur, même à leur vie spirituelle, en essayant finalement d'éteindre le feu que tu avais posé dans leur cœur et qu'ils n'ont pas su protéger, qu'ils n'ont pas su garder allumé. Peut-être ils n'ont pas pris soin, Seigneur, de se rapprocher de toi, mais ce matin, tu es prêt encore, Seigneur, à les relever, Seigneur. C'est ta miséricorde encore ce matin qui frappe à la porte du cœur de chacun. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Elle est grande. Seigneur, nous avons hâte de nous retrouver devant toi, toi qui es notre lumière. Seigneur, et les ténèbres n'auront plus de place, plus jamais. Seigneur, nous n'aurons plus besoin de quelque chose d'artificiel. Nous serons devant celui qui est la lumière et nous pourrons te voir face à face. Quel bonheur, Seigneur. Seigneur, nous te prions chacun de nous pour nous-mêmes, pour nos familles, mais nous te prions pour l'Église tout entière, Seigneur, en te demandant, Seigneur, encore d'être celui qui va parler au cœur de ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Tu en connais les raisons, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, que ton esprit puisse les visiter et les encourager, Seigneur, à s'approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.